8. Quel perché. Mais ces vertiges s'ajoutaient les uns aux autres, et même quand, de l'autre côté du faîtage, il n'y avait au bas de la pente du toit qu'un autre toit qui remontait, Angelo se laissait glisser dans ce creux de houle avec une inconscience de somnambule. Jean Giono. Sitôt que les deux hommes eurent quitté la pièce, Kell se hâta d'expédier ses besognes en y mettant plus de célérité que de zèle. Plat à barbe rondement rincé et eau usée diligemment évacuée par la fenêtre, vêtements brossés à la va-vite, pliés et rangés à la diable, sacs vidés dans les coffres puis fourrés sous le lit à la va comme je te pousse. En un instant, la chambre du sire de Vaumacel paraissait ordonnée. Le page, planté en son centre, la parcourut d'un regard scrutateur pour s'assurer que rien ne trahissait le caractère plutôt expéditif de son ouvrage. Il arrêta son attention sur l'un des brocs. Il contenait encore de l'eau claire, l'un des deux vases n'ayant pas été utilisé pour la toilette du chevalier. D'une allure décidée, Kell s'en empara et le déversa également par la fenêtre. Une fois la dernière goutte chue dans la rivière, la suite s'imposait. Corvée d'eau. Le petit valet était bien forcé de sortir. En promenant son ustensile d'un air affairé, il quitta donc la chambre des Rebec. De toute façon, un page débrouillard se devait de situer très vite un certain nombre de lieux dans une nouvelle résidence. Écurie, cuisine, cellier, bûcher, garde-robe, lieu d'aisance et, naturellement, le puits. Somme toute, Kell restait au service de son maître en contournant ses instructions. À quoi aurait-il été utile s'il n'avait pas su se diriger dans le château? Son broc vide lui servirait de laisser-passer commode qui lui permettrait d'éluder les questions indiscrètes. L'air pénétré par ses devoirs domestiques, le galopin entreprit donc d'explorer le château de Verre. Puisque la forteresse était vaste, il était facile de s'y perdre. Cela fournissait un prétexte tout trouvé pour se renseigner sur les lieux auprès des serviteurs que croiserait le petit drôle. Cependant, gardant à l'esprit les mises en garde des valets, il veilla à prendre des points de repère. En fait, il se fit l'observation que ce n'était guère difficile, non sans éprouver une pointe de mépris pour les idiots qui s'égaraient. Les façades, les chambranles, les clés de voûte et les toits de verre étaient couverts de médaillons, de mascarons et de sculptures. Il suffisait de les mémoriser pour se retrouver dans ce dédale. Du moins, fût-ce ce qu'il crut d'abord, avant de réaliser que certaines de ces figures se ressemblaient fort, ne variant que par quelques détails. Dans tel médaillon était représenté un sage lisant un livre à l'envers, dans tel autre le même sage, les yeux bandés, tenait son livre à l'endroit. Ici, c'était une dame entourée de deux cerfs, portant des besicles. Et là, les deux cerfs sans besicles, dévorant un chasseur. Au-dessus de cette porte, une chimère ailée à tête de chèvre et pattes griffues poussait une grande roue de charrette, tandis que sur cet autre linteau, elle courait à l'intérieur d'une roue de carrier. Kell finit par confondre certains sujets semblables au milieu du dédale de corridors, d'escaliers, de galeries et d'enfilades, ce qui l'amena plus d'une fois à tourner en rond ou à se tromper sur sa position. Il ne s'émut guère pour si peu. Après tout, quoi de mieux que de se fourvoyer pour faire semblant d'être perdu? Dressé sur ses ergots, tout gonflé de l'importance d'être le page du chevalier de Vaumacel, le jouvenceau apostrophait les sentinelles, les chambrières, les palefreniers ou les queues pour s'enquérir de son chemin. Ainsi fit-il ample provende de renseignements. Il apprit que la partie centrale du château, dans laquelle se trouvait l'hôtel seigneurel, était appelée Castel du Fêtre, tandis que la forteresse jumelle sur le dernier îlot était nommé Castel d'Ingremance. Les deux fortifications ne communiquaient que par un étroit pont-levis perché au niveau du chemin de ronde et plus haut encore par quelques arcs-boutants vertigineux qui s'entrecroisaient dans les cimes du château célestiel. plus d'une bonne âme, mit en garde le Freluquet contre le castel d'Ingremance. À l'origine, il avait été le repère de l'enchanteur Sénargent. Des charmes y sévissaient encore, et il arrivait que des malheureux y disparussent. L'endroit n'était plus occupé que par une petite garnison dont les sergents veillaient à ne pas s'aventurer dans les appartements condamnés. Ces avertissements aiguillonnèrent la curiosité du page, qui se jura d'y aller voir de plus près. Au préalable, il fit néanmoins les reconnaissances utiles qui lui permettraient de se justifier au cas où la rumeur de son vagabondage viendrait à remonter jusqu'aux oreilles de Nem et du chevalier. Aux cuisines, il réclama une collation pour son maître, qu'il s'empressa de dévorer entre deux portes. Il vérifia que les chevaux étaient bien traités aux écuries. Il finit par tirer de l'eau au puits et s'en débarrassa dans les latrines de la tour voisine, afin de poursuivre sa maraude en toute liberté. Il promena également son nez effronté en d'autres lieux où il n'avait rien à faire, salle de garde, commun des domestiques, garde-robe de la châtelaine de verre. En guise de souvenir, il y chaparda de menus bibelots, un dé à coudre en argent, quelques piécettes rognées, un joli fermail gravé, rejoignirent d'autres butins dans son escarcelle, dont les deux ducats d'or soustraits à la rançon de Claudas de Quimarc. Le garnement commettait ses larcins sans la moindre vergogne. Rien de grave après tout. Si des sots étaient assez négligents pour laisser traîner leurs affaires, quoi d'étonnant à ce qu'elles fussent perdues? Il avait d'ailleurs plus d'une explication toute prête à la présence de ces objets dans son aumônière. Il s'apprêtait à les rendre après les avoir ramassés dans un lieu de passage, où il les avait dénichés dans les rapines d'un odieux voleur. Pas lui, naturellement, il n'avait rien d'odieux. À dénoncer selon l'inspiration du moment, parmi les derniers imbéciles qu'il venait de croiser. Et pourtant, malgré son impudence, qu'elle n'avait pas tout à fait la conscience tranquille. Non qu'il eût quelques remords, ses escamotages n'étant que plaisanterie, mais il se sentait confusément surveillé. Certes, il donnait sans peine le change aux gens de service, cependant une vigilance diffuse semblait envelopper toute la forteresse. À plus d'une reprise, alors qu'il se faufilait dans des logis privés, le fureteur vérifia ses arrières avec le sentiment inexplicable d'avoir été pris la main dans le sac. Absurde. Il était seul. Mais c'était comme si une ombre avait passé derrière les fenêtres pour l'épier depuis l'extérieur, ce qui était inconcevable aux étages où il maraudait. Pourtant, des figures étranges l'épiaient bel et bien depuis la cour. Les mascarons aux têtes de cerf guettaient de loin en loin sur les façades. Le verre un peu déformé des petits carreaux donnait l'illusion que leurs yeux de chat suivaient tous les faits et gestes du chenapan. Lorsqu'il se sentit trop importuné par cette impression désagréable, Kell décida qu'il était temps d'explorer le castel d'Ingremance. Monté sur le chemin de ronde, il eut la bonne fortune d'y trouver le pont-levis baissé entre les tours des deux courtines. Malheureusement, le piquet de garde ne s'en laissa pas compter. Les hommes d'armes lui refusèrent le passage. Ils firent même des gorges chaudes sur le dos de ce paltoquet qui s'en allait puiser de l'eau sous les combles. Fort vexé, le page redescendit dans la cour. Il guignait les fines passerelles de pierre qui s'élançaient très haut d'une tour à l'autre, mais pour les atteindre, il lui fallait grimper au-dessus des toits du castel du Fêtre, dans les arcs-boutants vertigineux du château célestiel. Et il ne voyait pas comment y accéder. Jusqu'au moment où il se souvint des deux portes au premier étage de l'hôtel seigneurel. Une fois de retour dans le logis noble, il s'attarda un moment à palper le trompe-l'œil, jouant avec l'idée qu'il dissimulait un passage secret. Comme le mur lui opposait avec entêtement sa paroi dépourvue de ressorts et de panneaux coulissants, le Freluquet finit par revenir aux portes enchâssées des deux escaliers. Sur le chambranle de la plus petite, la tête sculptée du Bifron semblait le surveiller de ses yeux trop nombreux. Qu'elle lui tira la langue. puis poussa lui. Il s'était attendu à ce qu'il fût fermé à clé. Le battant s'ouvrit sans résistance. Un courant d'air vif souffla au nez de Kell. La porte basse avait tout juste l'espace pour s'ouvrir. Elle découvrit un minuscule escalier à vis entortillé dans sa colonne, dans lequel un homme armé n'aurait pu s'engager que de biais. Les marches en paraissaient aussi étroites que raides. À leur extrémité la plus aiguë, près du noyau central, elles n'offraient que l'espace pour poser la pointe du pied. Ce tourniquet s'abîmait dans une ténèbre de cave et s'élevait dans une nuit aussi épaisse. Quelque part dans cette cheminée obscure, le vent modulait une longue plainte de hulotte. Le page eut un instant d'hésitation. Une lampe n'eût pas été de trop dans ce casse-cou. Mais il en écarta l'idée. Partir en quête d'un flambeau en plein jour aurait trahi ses projets. De toute façon, le freluquet n'avait pas peur du noir, et il suffisait de se guider sur la paroi. Il s'enfila donc dans ce colimaçon, refermant presque complètement la porte derrière lui par souci de discrétion. Il entreprit son ascension giratoire. Au bout de 3 marches, il n'y voyait déjà plus goutte. Après avoir tourné plus d'une fois autour de l'axe, le page se mit à tâter avec soin le mur opposé. Les étages étaient fort hauts à Vert, mais Kell se disait qu'il finirait par sentir l'embrasure d'un palier. Cependant, sa main ne frôlait que l'appareillage serré de la maçonnerie. Privé de la vue et tourniquant sans cesse, le freluquet avait perdu tout sens de l'orientation. Il réalisa alors qu'il aurait été indiqué de compter les marches depuis le seuil qu'il avait franchi. Il faillit redescendre. Mais les degrés étaient si roides dans ce noir de poids qu'il préféra continuer à monter. Peu après, il manqua faire une chute. Il venait de sentir quelques gravats sous sa semelle, mais il n'y avait pas accordé d'importance quand il heurta du bout du pied un bloc assez massif qui encombrait un degré. L'imprudent n'échappa à la culbute qu'en se raccrochant au pilier central de l'escalier. Le bro, qu'il avait lâché, dégringola les marches dans un grand vacarme de ferblanterie. Kell sautilla périlleusement sur une jambe le temps que s'apaisa la douleur dans son orteil contu. Il ne se donna pas la peine de revenir sur ses pas chercher à l'aveuglette l'ustensile perdu. Il le retrouverait sans doute quand il redescendrait. En revanche, dès qu'il eut recouvré l'équilibre, il explora à tâtons l'obstacle qui venait de l'arrêter. De gros moellons de pierre encombraient quelques degrés devant lui. Comme il n'obstruait pas le passage, le jouvenceau les enjamba dans un exercice de contorsionnisme tâtonnant et put bientôt reprendre une montée plus régulière. Il n'avait pas été beaucoup plus haut quand une rumeur confuse parvint à son oreille. Un bourdonnement de voix résonnait quelque part. Le son parvenait étouffé par la pierre et Kell s'arrêta pour mieux écouter. Parlait-on dans son colimaçon ou de l'autre côté du mur, dans l'escalier plus large qui virevoltait autour? Malgré la finesse de son ouïe, le petit fureteur ne parvint pas à localiser l'origine de ce marmottement. Cela pouvait être fort lointain, comme juste derrière la cloison. Il semblait que plusieurs personnes tenaient une conversation traînante. Le son parvenait trop assourdi à Kell pour qu'il pût distinguer des paroles, mais l'accent des causeurs lui parut tout à fait vieillot. Il s'y mêlait parfois les bribes d'une chanson lente et triste, chevrotée par un timbre nasillard. L'attention qu'il prêtait à ces murmures le sauva probablement d'un accident, voire d'un sort encore pire. Comme il restait immobile et coi, l'oreille dressée, il se rendit compte que le courant d'air qui circulait dans ce passage tourbillonnait bizarrement. Pendant toute son ascension, une brise légère était descendue à sa rencontre pour lui caresser le front et les cheveux, mais voici qu'un souffle remontait lui rafraîchir le cou, le menton et les narines. Avec un frisson, Kell devina le péril avant même de l'avoir reconnu. Risquant un pied prudent devant lui, il ne rencontra que le vide. L'escalier disparaissait sans prévenir. Voilà qui expliquait les gravats dans lesquels le page avait trébuché un peu plus bas. En s'accroupissant, il promena les mains devant lui. À courte distance, il n'y avait rien. Mais en tendant le bras, il finit par toucher l'arête pierreuse d'un degré, au jugé qu'elle estima que deux marches s'étaient effondrées. Rien d'infranchissable. Surtout en passant du côté du pivot de l'escalier, mais le moindre faux pas aurait des conséquences fâcheuses. Il s'apprêtait à se relever pour tenter l'enjambée, quand une émotion le glaça des pieds à la tête. Les voix sourdes s'étaient tues. Il n'entendait plus que le chuintement plaintif du courant d'air. Mais il eut soudain l'impression de n'être plus seul. Aussi invraisemblable que cela pût paraître dans ce noir de poids, il eut la certitude d'être épié par-dessous, par ce trou traître dans la volée de marche. La chair de poule hérissonna le garçon et son cœur fit une embardée. Il y avait une présence juste là, à la fois en dessous et quelques pas derrière lui. À l'endroit où il s'était tenu un instant auparavant, et cet intrus le scrutait avec des prunelles nyctalopes capables de percer ses ténèbres de suie. Confusément, Kell voulut croire que c'était une de ces frousses sans objet qui vous saisissent parfois dans l'obscurité, que ce fantôme ne logeait que dans sa tête, où il n'avait été engendré que par la frayeur d'avoir été à un doigt de se rompre le cou. Mais ces suppositions raisonnables, loin de calmer son épouvante, ne firent que l'accentuer. D'abord, cela faisait belle lurette que Kell n'avait plus peur du noir. Cet accès de panique ne lui ressemblait pas. Ensuite, et surtout, l'idée qu'il était à l'origine de sa propre hantise redoubla son angoisse. Son imagination devint incontrôlable. Et il eut l'illusion, si nette qu'elle en paraissait affolante, d'apercevoir la créature qui l'espionnait. C'était Kell. Un autre Kell. Le Kell de plus tôt. Ou le Kell de demain. Pernicieusement ramené sous les pieds de Kell par cet escalier enroulé sur lui-même. Un deuxième Kell. Un Kell gémellaire. Un Kell de trop. Et le fantôme, à la fois occulté et alimenté par les ténèbres, coulait à Kell un sourire horrible, un rictus de jalousie et de souffrance. Ce Kell-là n'avait pas été providentiellement arrêté avant la brèche. Il était tombé dedans à pieds joints, il s'était rompu les os. Incapable de se redresser sur des jambes brisées où saillaient des esquilles, il avait appelé en vain. Il avait agonisé lentement sur les marches qui cisaillaient ses membres tordus. Puis, il était mort, là, bêtement, absurdement, alors qu'on le cherchait ailleurs. Et le spectre, désormais capable de voir dans le noir, avec ses prunelles éteintes, dévorait du regard l'insolent jumeau qui respirait toujours. Il lui ouvrait les bras pour l'inviter à sauter. Et d'épouvante, Kell sauta. Non dans la crevasse au fond de laquelle l'attendait l'horrible Kell, non en arrière, ce qui l'aurait aussi sûrement précipité dans l'étreinte de la larve. Non. D'un seul élan, Kell bondit au-dessus du trou, à l'aveuglette, au risque de connaître le sort terrible qu'il fuyait. Il s'étala rudement sur les marches du dessus, y déchira son joli hoqueton, glissa un peu en arrière et ne se stabilisa que lorsque ses pieds pendaient déjà dans le vide. La frayeur l'aiguillonna de plus belle et, sans même sentir la douleur, il détala, gravissant l'escalier à quatre pattes avec l'affolement du lapin qui a senti une belette dans son terrier. Il filait, le souffle court, tendu dans un effort forcené pour monter le plus haut, le plus vite possible, sans plus chercher l'embrasure latérale des paliers. La fuite lui parut interminable. Il haletait, le cœur cognant à tout rompre. Et pourtant, à force de tourner en rond, il avait l'effarante impression de faire du surplace. « Tu es en train de rêver, gros bonnet ?» le railla la petite voix de Kell, mais lequel ? Au fond de son esprit. Et cela ne fit qu'aggraver son affolement. Et puis, alors qu'il était à bout de souffle, les jambes percluses, proches de lâcher, il entrevit une lueur grisâtre qui épousait l'arrondi du mur et des degrés. Un dernier coup de collier le mena jusqu'à une portion de l'escalier sombre comme un cachot, mais qu'éclairait vaguement la fente horizontale d'un seuil. Le courant d'air sifflait par l'interstice. Le freluquet se précipita contre cette porte, désespéré par avance de la trouver verrouillée. Elle s'ouvrit à la volée. Une bourrasque enveloppa le page qui fut aveuglé par un déferlement de lumière. Pendant quelques instants, malgré ses paupières plissées et ses mains dressées devant le visage, Kell ne fut qu'éblouissement. Mais il sentait la gifle parfois rude du vent, tempérée par la chaleur du soleil. Quand il commença à accommoder sa vision, ce fut pour avoir une mauvaise surprise. Il était attendu. Trois grands personnages d'une taille vraiment intimidante lui barraient le passage avec raideur. Ils le dominaient à contre-jour. Et le jouvenceau les distinguait d'autant plus mal qu'il était encore ébloui. Toutefois, il en voyait assez pour percevoir leurs bras levés, paume ouverte en un geste d'interdiction. Le fâcheux au centre était drapé dans une grande parure sacerdotale. Ses deux comparses semblaient cuirassés dans de lourdes armures. Leur impassibilité en imposait. Jusqu'au moment où Kell, clignant des yeux, y vit enfin tout à fait clair et découvrit qu'il s'agissait de trois statues dont la tête et les épaules avaient été généreusement pommadées de fientes d'oiseaux. Alors, d'un seul coup, la panique du galopin s'évanouit et il fut secoué par un fou rire. Quel saut il faisait, avoir tremblé devant de vieilles sculptures, avoir déguerpi devant ses imaginations. Heureusement que personne ne l'avait vu. Non mais quel couard ! Pour se venger de sa déconvenue, il se mit à singer la pose sévère des statues. Puis, leur adressa de vilaines grimaces. Quand il en eut fini avec ses pitreries, Kell se laissa enfin aller à un mouvement d'autosatisfaction. Après tout, personne ne l'avait vu détaler ventre à terre, et il était arrivé à se hisser jusqu'au faîte du château, où peu s'en fallait. La peur se dissipait rapidement dans ce petit cœur arrogant, et la honte s'en évaporait encore plus vite. Ne lui restait plus que la fierté de trôner quasiment en plein ciel sur un perchoir aussi élevé qu'une aire d'aigle. La porte par laquelle il s'était échappé ouvrait au sommet d'une tourelle d'angle terminée par un toit en poivrière. Cette tourelle saillait légèrement au sommet de la façade de l'hôtel seigneurel, très haut au-dessus de la cour, des remparts, de certaines des tours, y compris la tour Malestru qui, vue de cette altitude, paraissait un fragile fortin joint par deux passerelles. La terrasse sur laquelle le page avait abouti n'était pas plus large qu'une corniche. Elle bordait le vide d'un côté, garnie d'un parapet crénelé plus décoratif que défensif, et s'accotait de l'autre à une toiture d'ardoise fort pentue d'où jaillissaient les murs du château célestiel. Tous les cinq pas, de grandes statues se dressaient au-dessus de l'abîme, tressant une couronne altière à l'édifice. Le panorama qui s'offrit au petit fouineur était étourdissant. Si les toits qui s'élevaient dans son dos lui masquaient les terres orientales du duché, en revanche, le regard portait à perte de vue dans les autres directions. Autour de la place forte, la nécropole de verre se réduisait aux dimensions d'une cuvette dont les monuments s'éparpillaient comme une traînée de gravier. Quoiqu'il n'eût pas tout à fait atteint le sommet du château, Kell surplombait déjà l'amphithéâtre boisé du fond duquel jaillissait vert. Par-delà les taillis rouilleux et verts de grisé du bosquet, il apercevait les frondaisons bleutées de la forêt qui recouvrait les hautes terres d'Agurande. Au nord-ouest, émergeait du moutonnement des collines un mont majestueux aux courbes douces, dans lequel le page crut reconnaître le Drucervin. Ses reliefs fléchissaient vers l'ouest et s'épandaient dans les vastes plaines du comté de Kimark. Au fond des campagnes quadrillées de prés et de champs, çà et là boulochés de bois et de vergers, on devinait les toits pointus du château de Mormark et de sa bourgade. Dans les lointains effleurés par des nuages de beau temps, un miroitement gris suggérait peut-être un méandre de la Claie. Rien dans la quiétude de ces horizons ne laissait soupçonner la menace d'une invasion. Ce n'était pas le cas vers le nord, sur l'autre versant des hautes terres d'Agurande. Là-bas, un plissement doux du paysage épousait le cours de l'Andoun. Au premier abord, c'était une contrée prospère où les cultures habillaient le vallonnement des terres. Presque hors de vue, dans l'indécis bleuté des horizons, se dressaient peut-être les tours et le dôme de Carwell. Mais ce qui attirait surtout les regards, c'étaient les quelques fumées noires qui dérivaient aux alentours du confluent de l'Andoune et du Vernobre. La guerre gâtait ce coin de duché, et si proche du fleuve, on pouvait se demander si l'offensive était poussée par les ouromans de Ferbassac ou par les troupes de Méléagan. Du reste, Kell aperçut aussi une minuscule colonne de cavaliers qui, remontant la vallée, s'apprêtait à entrer sous les lisières septentrionales de la forêt de Verre. L'écume de ces lointaines violences viendrait peut-être bientôt battre les murs du château. Ces présages reculés n'affectèrent guère Kell. Le freluquet était endurci, et une guerre ne lui faisait ni chaud ni froid. Sur le moment, il préférait se griser de l'espace, confondant l'ivresse des cimes avec l'opinion qu'il avait de lui-même. Pour s'amuser, il se pencha au-dessus d'un créneau et lâcha quelques crachats dans la cour, prenant plaisir à suivre la chute de ses jets de salive. Il trépignait quand il manquait de peu l'une des silhouettes menues qui s'affairait en bas. Puis, il avisa le pont-levis qui reliait le castel du Fêtre au castel d'Ingremance. Il le surplombait également, mais de trop loin pour gratifier le piquet de garde de ses glaires. Kell se dit alors qu'il serait fort drôle de revenir à l'hôtel seigneurel en passant par cette passerelle. Les malappris qui lui avaient barré le passage seraient joliment mouchés en le voyant réapparaître derrière eux. Cette plaisanterie offrait aussi un prétexte commode pour éviter de redescendre par où le galopin avait monté. Toutefois, pour cette malice, restait à passer d'un édifice à l'autre. Se détournant des abîmes, Kell leva le nez vers les tours, les pinacles et les échauguettes du château célestiel. Ses flèches se dressaient encore si haut dans l'azur qu'elles faisaient un peu tourner la tête. Rien n'y ressemblait à un pont, ni même à une passerelle, mais plusieurs arcs s'entrecroisaient d'un castel à l'autre. Peut-être un franchissement était-il possible sur ces arches, pour quelqu'un qui avait le pas sûr. Encore fallait-il atteindre cette architecture aérienne. Inspectant les alentours, le page s'avisa qu'un pignon à redans, en offrant un accès au faîte du toit de l'hôtel seigneurel, lui permettrait d'atteindre une fenêtre à meneaux de la tour auquel il s'appuyait. La voie était plus raide qu'un chemin de chèvre, mais le freluquet se dit que si des rustres comme des couvreurs ou des ramoneurs étaient capables de l'emprunter, rien ne l'empêcherait d'en faire autant. Un instant plus tard, le petit inconscient commençait à gravir le pignon palatial, usant des gradins comme d'un grand escalier. Les redans étant de bonne taille, il ne pouvait les escalader en marchant et devait se hisser degré après degré. Sur sa gauche, la couverture d'ardoise gîtait sévèrement vers la terrasse, qui prenait une allure de plus en plus étroite à mesure que Kell s'élevait. Mais sur sa droite, le mur tombait à pic sur 5 bonnes toises avant de s'enraciner dans la toiture d'un corps de bâtiment moins élevé. Tout prenait des allures obliques ou verticales autour du page, le pignon n'offrant au grimpeur qu'une corniche dont la largeur n'excédait pas une coudée. L'altitude et l'instabilité de sa position montaient à la tête du petit imprudent, comme s'il venait d'avaler cul sec un cruchon de vin. Le monde tanguait un peu et l'attirait de toutes ses lignes de fuite. Des cris et des appels retentirent, à la fois sonores et lointains. Beaucoup plus bas, quelques sergents venaient de repérer Kell depuis le chemin de ronde. Un peu plus haut, mais séparé du gringalet par le gouffre couvrait la rivière entre les deux castels, une sentinelle l'apostrophait également. Le vent emportait en partie les paroles de ces gens de pied. Mais il était clair qu'il mettait en garde le jeune insensé et lui ordonnait de redescendre. Alors qu'il était déjà aux deux tiers du pignon, le page condescendit à se retourner pour lâcher un regard de défi à ses gêneurs. Une rafale le fit vaciller dans son mouvement, et les hurlements redoublèrent sur les courtines. La sueur froide passée, le chenapan se moqua de ces bonnes âmes qui tremblaient pour lui. Son coup d'œil vers le bas lui fit aussi réaliser, presque par inadvertance, un détail bizarre. De nombreux oiseaux étaient perchés sur les toitures des remparts du Fêtre ou sur les tours du castel d'Ingremance. D'autres voltigeaient aux alentours. En revanche, pas un volatile sur les toits de l'hôtel seigneurel. C'était d'autant plus singulier que statues et parapets étaient souillés par une couche de plumes et de fientes. Mais pas un corbeau, pas un pigeon, ni le moindre freux à 30 pas à la ronde. Kell en déduisit avec satisfaction qu'il avait effrayé l'agent ailé et reprit son ascension. Parvenu au sommet, il entreprit de marcher sur l'arête du toit en direction de la fenêtre qu'il avait repérée dans le château célestiel. L'arrondi vernissé des fêtières rendait cette voie assez glissante, et le galopin dut se livrer à un vrai numéro de funambule pour atteindre son but. Par chance, la fenêtre qu'il avait visée n'avait ni battant ni volet. En une traction, il était perché sur son rebord. Soulagé d'en avoir fini avec les acrobaties, il était sur le point de sauter à l'intérieur et fut bien près de se tuer. L'étage auquel il venait d'accéder n'était pas achevé. Des solives s'élançaient bien d'un mur à l'autre au-dessus du vide, mais le plancher avait disparu, si tant est qu'il eût jamais été posé. Sous l'ouverture par laquelle Kell venait de se faufiler, il n'y avait rien, sinon les murs de la tour qui dégringolaient jusqu'à un carrelage 4 toises en contrebas au niveau de la terrasse qu'il venait d'abandonner. Le page se retint au dernier moment, les deux mains accrochées à la pierre sculptée, en découvrant la marche vertigineuse qui s'ouvrait sous ses semelles. Du coin de l'œil, il crut à nouveau surprendre l'autre Kell qui le guettait dans la pénombre d'en bas. Le fantôme se dissipa presque aussitôt, tandis que lequel perché lâchait une bordée de jurons qui lui aurait valu la désapprobation de ses maîtres. Un bras enroulé autour du meneau, le chenapan se pencha un peu pour évaluer sa position. La tour dans laquelle il venait d'arriver était presque totalement creuse. Elle ne contenait que des épures d'étages, des solivages sans plancher qui dessinaient de larges grilles horizontales de loin en loin. Des cheminées délicatement sculptées formaient des enfeux suspendus dans la paroi. La lumière pénétrait à flots par de nombreuses fenêtres et par le sommet de l'édifice. Seuls les arcs en ogive, dépourvus de leur voûtin, s'élançaient au-dessus de ce puits castral. Les rayons de soleil, découpés par les croisées ou les linteaux trilobés hachurés par les charpentes nues, semaient une gloire sur la muraille orientale de la tour. Assez étrangement, dans cet édifice inachevé, des fresques un peu écaillées habillaient les murs. Elles représentaient une grande mascarade dansant autour de l'espace vide. Des musiciens aux têtes d'animaux y jouaient de la guiterne, du chalumeau, de la rotte, de la sacqueboute ou du cornet à bouquin. Cependant, ces peintures fixèrent moins l'attention de Kell que l'embrasure d'une porte située à peu près en face de sa fenêtre. Derrière le porche, il entrevoyait quelques marches qui grimpaient dans l'épaisseur de la muraille. Évidemment, ce seuil se révélait risqué à atteindre. Mais après tout, il suffisait de jouer les équilibristes sur la charpente. Un nouveau défi à relever. Le page se donna à peine un instant pour évaluer la distance qui séparait son rebord de la poutre la plus voisine, et sauta. S'il atterrit bien sur le chevron, il lui fallut un peu battre des bras pour se rétablir. Une fois d'aplomb, il s'engagea au-dessus d'une cavité de 25 pieds, comme il aurait franchi un ruisseau sur une planche. Il avait presque atteint l'autre extrémité de sa passerelle, quand des appels remontèrent des tréfonds de la tour. Croyant qu'il s'agissait des sentinelles qui tentaient de le rattraper, il courut sur les derniers pas et s'engouffra dans l'entrée de l'escalier. Alors qu'il montait les premières marches dans l'ombre d'un corridor, il réalisa que ses timbres étaient dépourvus du coffre qu'avaient mis les sergents à le héler depuis le chemin de ronde. C'étaient les voix traînantes qu'il avait déjà entendues dans le noir, quand il avait failli chuter dans l'escalier brisé. Sans qu'il sût très bien pourquoi, cela le chiffonna, et il se hâta de gravir les degrés. Ce passage épousait la courbe douce de la tour. Il était plongé dans la pénombre, mais non dans l'obscurité, car la lumière perçait par l'embrasure des portes des paliers. Toutefois, celle vers laquelle montait Kell ouvrait non à l'intérieur de la tour, mais à l'extérieur. Il supposa qu'elle desservait une courtine ou une plateforme. Aussi, un violent tournis le surprit-il quand il atteignit ce seuil. Il débouchait sur un vide vertigineux. Au-delà du pertuis, il n'y avait qu'un palier en encorbellement large de 2 pieds, dépourvu de parapet. En dessous, la muraille tombait à pic en direction d'un filet d'eau lointain, le bras de la rivière qui séparait les 2 castels. De part et d'autre, les édifices dressaient leurs falaises fortifiées telles des orgues démesurées. Au-dessus de quelles, l'azur était zébré par les arches qui reliaient les tours au-dessus du gouffre. Quoi qu'il n'en fût plus très loin, le page n'était pas encore monté assez haut pour les atteindre. Le vent, à travers cette dentelle de pierre, modulait des sifflements presque humains. Parfois, les souffles hôlés dans ces immenses chevalements produisaient un semblant d'harmonie, comme l'écho d'une pavane un peu désaccordée. Ce fut en levant la tête pour les écouter que le page découvrit une voie d'accès. À côté de sa porte aérienne, des pierres saillaient du mur. Il s'agissait de consoles taillées sur le modèle des encorbellements destinés à recevoir des mâchicoulis ou une bretèche. Mais rien n'avait été bâti sur ces supports qui s'élevaient de biais le long de la fortification. Ils formaient un escalier rudimentaire, suspendu au-dessus de l'abîme sans garde-fou. En fait, de marche en marche, il fallait même franchir un espace creux. Mais la structure montait régulièrement le long de la façade. Si elle disparaissait derrière l'arrondi de la tour, elle réapparaissait beaucoup plus haut et permettait d'accéder aux arches. Kell n'eut qu'un instant d'hésitation. Il n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Et puis, de toute façon, il s'était hissé à de telles altitudes que s'y émoussait le sens du haut et du bas. Le sol paraissait désormais si éloigné qu'en cas de chute, il semblait improbable de s'écraser dans ce décor minuscule. Le vent risquait davantage d'emporter le garçon parmi d'infinis tourbillons jusqu'aux forêts du Drucervin ou jusqu'au toit de Mortemarck. Le cœur battant d'excitation, le page quitta donc l'intérieur de la tour et se mit à sautiller de saillie en saillie. Il entendait toujours, très loin, les mises en garde des sentinelles. Au ululement des rafales se mêlaient également d'autres appels, en partie chantonnés, qui l'attirait davantage vers le ciel. C'étaient des encouragements à demi audibles, parfois entonnés sur l'air de vieilles chansons qui se perdaient dans les coups de vent. Le page soupçonnait quelque chose de mystérieux dans ces ritournelles. Cela ne piquait que davantage sa curiosité. Pour conserver l'équilibre, le chenapan frôlait le mur de la main. Les pierres de parement y étaient usées par de longs sillons. Manifestement, tous les grimpeurs qui avaient emprunté ce raidillon avaient eu le même réflexe. Mais les blocs étaient également égratignés par d'innombrables graffitis. C'était, pour la plupart, des noms, parfois profondément gravés, et pourtant à moitié polis par l'érosion et la fuite des ans. Kell aurait bien pris la peine de sortir son couteau pour y ajouter sa marque, s'il n'avait craint d'être rejoint par les gêneurs qui le suivaient depuis l'escalier du cornu. De temps en temps, le tuffeau était également marqué de dessins maladroits ou de messages en partie effacés, mais le page avait trop le tournis pour essayer de les déchiffrer. Sous sa paume, il avait l'impression que les pierres de taille avaient été striées par d'innombrables griffes. Le panorama tournait majestueusement autour du jouvenceau à mesure qu'il gravissait les marches. Il y perdait à peu près tout sens de l'orientation et ne savait plus trop si les reliefs bleutés qui bordaient les horizons appartenaient aux hautes terres d'Agurande ou au mont du Chevêchin. En passant alternativement de l'ombre des arches aux murs baignés de soleil, il était dangereusement ébloui et devait parfois marquer un arrêt pour veiller à ne pas faire de faux pas. Enfin, au détour de la muraille, il découvrit que l'escalier suspendu aboutissait bien à un arc. Il en glapit de joie, persuadé qu'il allait pousser cette excursion acrobatique jusqu'à son terme. Son cri se répercuta, à la fois chétif et perçant entre les enceintes démesurées. La brise lui répondit par une polyphonie où chuintait tout un cœur de murmures désemparés. Le cœur exultant, le page finit par se hisser jusqu'au grand arc boutant de pierre qui franchissait l'abîme vers le castel d'Ingremance. Pourtant, une fois à pied d'œuvre, Kell perdit un peu de sa superbe. Le passage paraissait si périlleux qu'il fallait un sérieux grain de folie pour s'y risquer. La partie basse de l'arc boutant s'appuyait sur le castel du Fêtre, là où venait de grimper le petit inconscient. La partie haute étançonnait donc la forteresse jumelle. Franchir le gouffre qui les séparait ne nécessitait pas seulement de cheminer sur une traverse à peine large de 2 coudées, mais il fallait en remonter le pan incliné en plein ciel au milieu des bourrasques qui s'engouffraient entre les édifices. Certes, un escalier était ménagé dans une saignée au centre de l'ouvrage, mais il attaquait si raide et si mal commode qu'il paraissait plus dangereux qu'une rampe. Dépourvus de garde-fous, ces petits degrés se trouvaient disposés en coin selon une alternance inconfortablement triangulaire qui ne permettait de poser qu'un pied par marche. Une fois engagé sur ce brise-coup, la démarche était contrainte par la configuration de l'escalier, et il était quasiment impossible de faire demi-tour avant d'avoir atteint le palier. Le seul élément un tant soit peu encourageant de cette architecture était formé par le point d'arrivée. L'arc de pierre avait sa butée située juste au-dessus d'un mâchicoulis bordé d'un parapet. Si l'on montait jusqu'à la muraille d'Ingremance, on pourrait facilement se laisser glisser jusqu'à cette vire qui permettait d'accéder à une étroite poterne. Les statues qui ornaient la balustrade pouvaient offrir un marchepied commode pour gagner la sécurité du chemin de ronde. Ayant repéré sa voie, Kell inspira un grand coup et serra les poings. Il y était presque. Plus qu'une petite grimpette et à lui les mystères du château de Sénargent. Sans parler de la fierté que lui apporterait son exploit. Certes, il était très conscient que ses acrobaties lui vaudraient une punition sévère, mais il n'en avait que faire. Après tout, la sanction ne ferait que confirmer la prouesse. Et il en tirerait également gloire. Allons, une petite voltige, et le tour était joué. On en parlerait dans tout le château, et probablement au-delà. Sa résolution affermie, le page prit son élan. Il posait déjà le pied sur la première marche de l'arc. Quand l'étonnement le figea, en équilibre instable au-dessus de l'abîme. Il y avait quelque chose d'étrange, et même quelque chose de troublant, dans la rangée de sculptures qui ornait le parapet de son point d'arrivée. L'une des statues qui fixait Kell sans le voir était parfaitement identifiable. Il s'agissait d'un preux dont le harnois parut bizarrement familier au chenapan. Comme lui était familier ce visage mâle et un peu émacié, aux cheveux coupés assez courts. Le chevalier de pierre s'appuyait d'une main sur un grand écu, dont les armoiries seules variaient de ce que reconnaissait le page, mais dans l'ensemble, la statue était criante de fidélité au modèle. une effigie légèrement ébréchée d'Aidanne de Vaumacel se dressait sur le castel d'Ingremans. Cette apparition était tellement inattendue qu'elle arrêta plus sûrement le garçon que les injonctions des sentinelles ou le danger. Qu'elle cligna des yeux, comme étourdie. Avait-il la berlue? Prenait-il pour une ressemblance ce qui n'était que coïncidence? Peu vraisemblable. Il se flattait d'avoir une vue perçante bien supérieure à celle des adultes, du moins quand il n'était pas ébloui. Dans ce cas, peut-être cette statue avait-elle été sculptée d'après un aïeul du chevalier. Après tout, le blason ne correspondait plus aux couleurs d'Aidanne de Vaumacel. Sur l'écu de marbre, une rose pointée et tigée avait été gravée. Aux cinq épines qui défendaient la fleur, s'en ajoutaient deux autres qui gardaient la tige. Cette variante, toutefois, ne suffit pas à dissiper le malaise du page. Ce meuble héraldique ne lui était pas inconnu. Il en gardait encore le souvenir. Quant à l'armure prêtée à l'effigie, elle était d'une désagréable familiarité. Qu'elle ne reconnaissait que trop ses spalières, ses brassards et ses gantelets, qu'il passait un temps fou à astiquer. Non. Décidément, le doute n'était pas permis. De l'autre côté du gouffre, l'attendait la figure ouvragée de son seigneur. « Incroyable !» se révolta le freluquet. « Celui-là, il faut toujours qu'il gâche tout.